Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être fidèles à votre rendez-vous sport du lundi soir 17h au Petit Café des Sports. Une semaine sportmidable, vous savez, une petite demi-heure pour revenir sur les grandes actualités sportives. Et ce soir, nous allons parler basket avec, dans les studios d'RRB, à mes côtés, Samantha Honda. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être de retour de Métropole et de passage parmi nous. Évidemment, vous faites partie de la sélection calédonienne qui se prépare pour les Jeux du Pacifique. Également à mes côtés, Natsumi Wainemgo. Je vais bien le dire, Wainemgo. Je l'ai à peu près dit.
Oui.
Bonsoir, désolé pour la prononciation à la fois de la sixième kilomètre et chargée de communication de la Ligue de basket. Merci d'être nous. Et
merci.
Également, Yann Matelon, merci d'être avec nous pour la sélection calédonienne masculine. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à tous, évidemment. Beaucoup d'actualités basketball ces dernières semaines. On va parler, bien sûr, NBA, on va parler de la préparation des Jeux du Pacifique. On va revenir sur tout ça, mais d'abord, si vous le voulez bien, on va entrer en matière avec l'Euro de basket, l'équipe de France féminine. Et oui, maintenant que les footballeuses sont éliminées du mondial, on va suivre de près cet Euro féminin avec la France qui vient de décrocher ce matin son billet pour les quarts de finale. On en parlait juste avant cette émission. C'est surtout vous, Samantha. Samantha, c'est vous qui suivez un petit peu cette équipe de France. Vous en pensez quoi? Ce début de compétition, les Bleus, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'elles peuvent aller décrocher le titre?
Pourquoi pas? Il y a beaucoup de nouvelles recrues cette année pour l'Euro. Donc, pourquoi pas faire l'exploit de la médaille d'or.
Aller prendre la médaille d'or, puisque ça fait 3 finales de suite que les Françaises s'inclinent. On attend beaucoup depuis la génération des braqueuses. Le dernier titre, c'était le championnat d'Europe, c'était en 2009. Elles ont de lourds espoirs qui pèsent sur leurs épaules, j'ai envie de dire.
Oui, on croise les doigts, on croise les doigts et puis... ça peut peut-être bien se passer.
Je me tourne 2 minutes vers Yann et vers Natsumi. Je crois que vous suivez de plus loin cet Euro féminin. Quand même, un petit mot sur cette équipe de France. Natsumi, bon, évidemment, on va soutenir puisque c'est les Bleus. On aimerait bien y croire, aller chercher l'or dans cette compétition.
Oui, totalement. C'est vrai que je n'ai pas trop suivi. Je suis assez prise avec les Jeux du Pacifique. Donc, j'avoue ne pas avoir été une fidèle supportrice. Mais je pense qu'il y a des grandes chances que l'équipe de France aille au moins jusqu'au quart.
Maintenant qu'elles sont au quart, j'espère qu'elles vont aller plus loin. Yann, vous de ce côté, cette équipe de France féminine.
Comme vous l'avez dit, elles ont déjà fait 3 finales et du coup, elles ont malheureusement perdu, mais il ne faut pas qu'elles lâchent et certainement qu'elles iront encore cette année. Mm-hmm. Et pourquoi pas décrocher l'or.
Déjà, la finale, ça serait le meilleur objectif. Samantha,
le plus loin possible.
Vous, de l'époque des braqueuses, on en parlait, ces Françaises qui gagnaient tout. Aujourd'hui, il y a ce renouvellement de génération, cette nouvelle équipe de France. Vous, est-ce qu'il y a des joueuses dans ces Bleus, dans cette nouvelle génération que vous suivez de près, que vous scrutez particulièrement?
Comme à mon avis, toutes les joueuses en métropole, Marine Johannes. Ensuite, il y a Ornella Boncollet qui fait son apparition cette année. Qui joue à Montpellier donc, et qui est passé par le club dans lequel je joue. Donc,
Vous l'avez croisé d'ailleurs?
Non, j'en ai beaucoup entendu parler par les coachs.
Ouais.
Mais je pense que ça pourrait être pas mal. Une bonne recrue.
Une belle génération de bleus à voir à l'horizon?
Je pense, oui.
Bon, il n'y a plus qu'à avoir un titre de championne d'Europe pour décrocher, retrouver en même temps le bonheur avec les supporters. On l'a vu avec les footballeuses, justement, sur la scène médiatique, l'Euro féminin de basket. Et là, je me tourne aussi vers Natsumi, vers Yann. Natsumi, très prise par les Jeux du Pacifique, évidemment, mais Yann également. Là, on a beaucoup parlé football féminin. Le basket, les basketteuses, on les suit depuis longtemps. Est-ce que vous pensez qu'elles sont reconnues à leur juste valeur sur la scène médiatique? On peut mieux faire.
Oui, on peut toujours mieux faire. Là, c'est vrai que par rapport aux garçons, elles sont moins médiatisées. Mais je pense qu'avec un titre, ça va aller de mieux en mieux.
C'est ce qu'il faudra pour le prochain adversaire. Ce pourrait être l'Espagne. L'Espagne les ogresse un petit peu dans ce championnat d'Europe. Samantha, vous y croyez à une belle performance face aux Espagnols?
Ah oui, il faut toujours y croire. Elles peuvent faire l'exploit, comme je disais tout à l'heure. Donc... moi j'y crois.
On va y croire. En tout cas, la suite de cette émission, il y avait aussi beaucoup de choses à dire, on le disait. Là c'est Yann qui va pouvoir nous en parler. La NBA évidemment, c'était le grand dénouement de ce championnat américain. Tout d'abord, cette victoire des Toronto Raptors, c'était très compliqué face aux Golden State Warriors. Vous avez suivi ça de près?
J'ai suivi à peu près tous les matchs des finales. Et c'est vrai que c'était dur, mais qu'ils ont réussi à... ils étaient outsiders, ils ont réussi à battre le champion en titre.
Exactement.
Qui était à sa cinquième finale consécutive. Donc c'était quand même une grosse victoire.
Alors ça, pour à titre de comparaison, quand même, ce championnat américain, ça reste le championnat roi, on va dire, quand on aime le basket, forcément.
Référence, oui.
Ouais. Du coup, cette saison, vous l'avez vécu comment? C'est toujours à sa juste valeur le basket américain. Vous y trouvez toujours votre compte?
C'est toujours plaisant à regarder. Après, c'est vrai que sur les playoffs, il y a beaucoup plus d'intensité qu'en saison régulière. Et moi, personnellement, j'ai plus suivi les playoffs que les matchs de la saison régulière.
On attend de voir qui se qualifie pour les phases finales, chaque conférence, voilà. Et puis c'est là que ça prend de l'enjeu.
C'est là que les choses sérieuses commencent.
Mesdemoiselles, sur la NBA, forcément, quand on aime le basket, vous regardez. Non, vous aviez une équipe, peut-être, que vous avez supportée durant ces phases finales, pas spécialement Samantha.
Non, j'avoue que j'avais pas trop le temps de.
La NBA, pas trop.
NBA, non.
Bon, il y a quand même un monsieur de la NBA, forcément, quand on est basketteur, que vous avez suivi de près, c'est ce Tony Parker, un grand monsieur qui a décidé de prendre sa retraite. Là, pour commenter un petit peu cette décision, il est plus tout jeune, Tony Parker. Natsumi, ça, c'est quelqu'un qui a marqué, en tout cas, à l'échelle française, ce sport.
Et il a marqué, je pense, beaucoup de générations. Je pense que même la génération de Samantha, qui est ben voilà, des moins de 25 ans a été marqué, les plus de 25 aussi, et je pense que ça a été quelqu'un qui a fait relever le basket français au plus haut niveau et qui a permis aussi d'ouvrir une porte pour d'autres générations derrière. Donc c'est quelqu'un qui a énormément marqué, je pense, le basket français et qui continuera par la suite de le faire parce qu'il est vachement investi encore sur toute l'organisation au niveau de son club, et on sait très bien tout ce qu'il peut apporter aussi au développement du basket français. Et donc je pense que oui, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément marqué, donc voilà.
Tony Parker, Samantha Honda, vous sur ce bonhomme, quand même, c'était pas n'importe qui, c'était. Et effectivement, on le disait, il va continuer puisqu'il est toujours président du club de Villeurbanne. En tout cas, il met fin à sa carrière en tant que joueur. Quel regard vous portez sur cet homme?
Ah ben depuis que je suis toute petite, on entend parler de Tony Parker, tous les gosses traînaient avec les maillots Tony Parker. Donc ouais, c'était un exemple pour nous, enfin un rêve à atteindre. Et donc qu'il prenne sa retraite là cette année, c'est ouais.
Ça fait quelque chose.
Ouais, c'est clair. Mais bon, après il a repris l'ASVEL, un bon club qui tourne bien.
Ah, sacrément bien, champion de France encore une fois. Clair.
Donc non, c'est une page qui se tourne, mais on n'oublie pas pour autant que ça nous a permis de rêver un petit peu depuis qu'on est jeune.
Yann, sur ce joueur, forcément Tony Parker, ça fait rêver également.
Oui, il est parti en tant que légende là, de l'équipe de France. Hein. Ça a été un des leaders de l'équipe pendant plusieurs années. Mm-hmm. En NBA aussi, il a marqué les esprits. Il a gagné pas mal de titres. Et ça a été un des premiers Français à décrocher le titre NBA, meilleur joueur des finales. Donc oui, c'est un gros parcours qu'il a fait. Une légende du basket français. Et là, avec son club... L'ASVEL, là, ils ont gagné encore cette année, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, on va dire que tout roule pour lui. Et ça commence bien pour l'après-NBA.
Exactement, toujours en tant que président. Maintenant, on va continuer d'entendre parler de lui. Simplement pour vous demander, ça s'est déjà vu hein, dans le basket, voilà, des légendes qui continuent, même voilà, qui reviennent. Tony Parker, vous pensez qu'il aurait pu continuer encore quelques saisons, on va dire quelques piges? Ça m'entache, je vois. Un petit peu hoché de la tête, on aurait pu continuer de le voir encore, il avait le niveau pour rester.
À ce niveau-là, je pense qu'il peut quand même continuer un petit peu. Après, il a fait une très belle carrière. Donc ça se comprend aussi qu'il veut arrêter, quoi.
Il a déjà tout fait.
Ouais, je pense qu'il a montré pas mal déjà.
Yann, on aurait pu continuer de voir Tony Parker, pourquoi pas dans quelques clubs, certes plus au même niveau, mais il aurait dû...
Je crois que ça fait peut-être 17 ou 18 ans qu'il était en NBA. Du coup, ça doit...
Sacrée longévité déjà. Ouais.
Je pense que s'il s'est retiré, c'est parce qu'il sentait que c'était le bon moment.
Natsumi, vous, Tony Parker, vous aimeriez le voir encore ailleurs qu'en NBA, hein, pourquoi pas évoluer encore sur les parquets de France?
Moi, je pense qu'il aurait pu encore évoluer, je pense, au niveau des parquets européens. Et après, je pense que ça a été un choix vachement réfléchi de sa part. Et effectivement, comme Yann le disait, après 18 ans passés, voire plus de 18 ans passés à une carrière à très haut niveau, je pense qu'il y a aussi le corps peut-être qui demande à ce qu'on soit beaucoup plus reposé et qu'on se réoriente vers une carrière tout autre, tout en restant toujours dans le milieu sportif et notamment dans le basket. et qu'on revienne à la maison surtout.
Aujourd'hui, si ce Tony Parker a ouvert une brèche pour les basketteurs français, notamment bah, voilà, dans ce championnat roi, la NBA, qui est-ce que vous voyez comme digne successeur? On a quand même vu Rudy Gobert, élu récemment meilleur défenseur. Yann, vous voyez qui en ce moment maintenant que Tony Parker n'est plus là pour voilà, garder un peu le... On va être chauvin pour continuer de représenter la France hein, sur les parquets américains.
Je pense que Nicolas Batum il peut prendre le relais. Parce que c'est vrai qu'il a évolué pas mal d'années avec Tony Parker. Après, oui, il y a Rudy Gobert, encore meilleur défenseur en NBA. Mm-hmm. Donc, ouais, il y a déjà deux bons joueurs. Après, expérimenté, je pense, c'est Nicolas Batum. C'est,
Nicolas Batum. Ouais. Ça va continuer, selon vous, de voir des Français qui viennent un petit peu, ce contingent de tricolores qui vont dans le championnat américain et qui arrivent à faire leur preuve, qui arrivent à rester surtout.
J'espère. J'espère que oui, il y aura toujours des Français NBA en nombre. Parce que comment, les joueurs européens ils commencent à faire leur place pas mal en NBA.
Donc, les Espagnols, voilà. L'Europe de l'Est, il faut voir plus de Français. Comment expliquer que c'est toujours la NBA qui continue de faire rêver plus peut-être que les championnats nationaux sur le vieux continent en Europe?
Mais je sais pas, c'est le championnat en référence. Quand on joue au basket, en première chose qu'on entend parler, c'est la NBA. Donc ça reste la référence quand même. Et depuis longtemps déjà.
On va quand même toucher un mot sur le championnat de France, puisque justement, tant qu'à parler de Tony Parker, là c'était l'ASVEL, le club de Villeurbanne, qui décroche également, qui fait le doublé chez les garçons et chez les filles. Samantha, ça c'est une performance inédite hein, du championnat de France.
Ah
c'est,
oui,
ça, c'était des belles finales, en tout cas face à Monaco.
Oui, oui, ah oui, c'était spectaculaire. Et je ne sais pas si ça s'est déjà fait qu'un club qualifie ses deux équipes pour
c'est la finale. Première fois.
Donc, ouais, c'est... Et les matchs étaient vraiment beaux.
Ouais, c'était un retour en force de Monaco. Ah, oui. Ils auraient pu rafler la mise et finalement, Villeurbanne qui l'emporte.
C'est ça.
Yann, vous, cette finale du championnat de France cette fois, moins que la NBA, mais vous avez suivi de loin?
Oui, oui, de loin, de très loin même.
Juste parce que c'est Tony Parker.
Voilà.
Natsumi, pas spécialement. Et si vous le voulez bien, on va marquer une courte page de publicité et on va revenir évidemment à ce qui vous intéresse le plus en ce moment, c'est la préparation des Jeux du Pacifique.
RRB, la pub. Augusto, le petit resto du quartier latin. Pâté pizza faite maison, mais aussi snacking et salade. Ouvert le lundi midi et du mardi au samedi midi et soir. Augusto, 23 88 33. Radio
Rythme Bleu. Et rapidement, comme sur un terrain de basket, nous retrouvons vos invités, Michael Juneski.
Oui, et la suite de cette émission consacrée au basket, évidemment en ligne de mire désormais pour les sélections calédoniennes. Ce sont les Jeux du Pacifique qui approchent à grands pas. La cérémonie d'ouverture, c'est dans une semaine maintenant. Tout d'abord, Samantha Honda, vous revenez de métropole justement pour pouvoir participer à ces Jeux. Expliquez-nous un petit peu dans quel état d'esprit vous vous sentez avant ce grand rendez-vous.
Ah, j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. On est à J-5. Mm-hmm. Donc là, ça y est, on y est quoi en fait. On y est, donc le groupe est prêt. On a une équipe qui est soudée avec beaucoup de cohésion. Donc ça ne peut que bien se passer.
Ça ne que ah, non. Oui. Ce qui veut dire l'or.
Ah bah faut toujours viser haut.
Faut toujours viser l'or.
Donc non, on part vainqueur et on va se battre pour porter au mieux les couleurs de notre pays.
La même question désormais du côté de Yann, vous vous êtes rodé, ces jeux-là du côté de Apia, comment vous les sentez? C'est quoi le mot d'ordre?
Là on part pour chercher la plus belle des médailles, donc l'or. On s'est donné les moyens depuis maintenant 2015 pour composer cette équipe-là qui va partir. Mm-hmm. On vit bien, grosse solidarité entre les garçons. On a eu l'opportunité de faire un beau tournoi en Australie. Début mai, ça s'est bien passé, on a pu voir ce qui nous manquait et du coup on a bossé dessus entre 3 et 5 entraînements par semaine depuis. On a fini hier dimanche là, on a encore 2 cette semaine et c'est juste pour peaufiner quoi, mais autrement le groupe est prêt. Mm-hmm. Et tout le monde a la diète et dans des coudres avec les meilleurs.
Natsumi, sur cette préparation des Jeux du Pacifique, vous baignez dedans, vous regardez comment un peu tout ce qui se prépare. Forcément, on escompte bien voir la Calédonie sur la plus haute marche du podium.
Alors, à savoir que pour les féminines, c'est un groupe qui est très jeune. Donc on a trois cadres en fait dans cette équipe-là. Après, la plupart des filles sont des filles qui vont en fait connaître leur premier jeu. Donc elles vont aller expérimenter le haut niveau, on va dire, régional pour la première fois. Donc on a eu l'opportunité d'avoir un déplacement au mois d'avril, début mai, sur les Arafura Games. Donc on a pu aller échanger un petit peu avec les équipes australiennes qui ont un jeu très différent de ce que nous on peut connaître ici. Donc elles se sont fait un peu les dents, comme on dit chez nous. Donc on espère qu'avec le rythme qui a été soutenu et notamment l'intensité des matchs qu'elles ont pu connaître, elles vont pouvoir en tirer le meilleur pour arriver au jeu et se dépasser et se surpasser, surtout pour le maillot qu'elles vont partager ensemble pendant 15 jours. Et je pense que chez les garçons, c'est exactement pareil. La Ligue de Nouvelle-Calédonie de basketball a mis les moyens pour cette préparation. Elle a tenu à ce que deux personnes de l'extérieur, donc notamment Samantha, qui complète du coup l'équipe féminine, et chez les garçons, Rodrigue, qui s'excuse, il devait venir normalement ce soir, mais qui a eu un empêchement.
On le comprend, rentrer de métropole, il y a la famille à voir, c'est pas facile de trouver.
Voilà, donc du coup, on peut compter aussi sur ces éléments extérieurs qui vont pouvoir apporter aussi leur richesse à ces groupes qui évoluent ici, en tout cas sur le championnat calédonien.
Samantha, la pression sur les épaules, Natsumi vient de l'évoquer, voilà, la première fois que vous portez les couleurs d'Ekago dans cette compétition, ça fait un petit quelque chose en plus.
Moi c'est la deuxième fois.
La deuxième, enfin je veux dire pour des Jeux du Pacifique.
Oui, non, mais c'est...
Pour les Jeux du Pacifique.
En fait c'est pas vraiment de la pression, c'est plus de l'excitement, j'ai hâte.
Ouais.
C'est tellement une fierté, c'était un de mes plus grands objectifs de ces dernières années. Et non, c'est pas vraiment une pression, j'ai hâte, j'ai vraiment envie, j'ai hâte.
Qu'est-ce qu'il faudra craindre? On va rester deux minutes chez les filles. Qu'est-ce que vous allez craindre, que vous allez surveiller particulièrement dans cette compétition?
Il y a plusieurs équipes qui sont pas mal, comme Fidji ou Guam. Donc on connaît à peu près leur niveau, leur joueuse cadre.
Ouais.
Ils en ont fait revenir d'Amérique. Mais après, à craindre, je pense qu'il faut juste qu'on se donne les moyens de le faire et il n'y aura pas de souci. En fait.
Faire son jeu et puis peu importe l'adversaire.
C'est ça, peu importe l'adversaire, on va s'arracher pour tout gagner. Quoi.
Yann, de votre côté, avec la sélection masculine?
Ce sera Guam, champion titre.
Ouais.
Toujours dans le dernier carré, toujours entre la première et la troisième place à chaque fois. Donc, ce sera la grosse équipe du tournoi, je pense. Et Fidji aussi, Papouasie qui a gagné en 2017 la Mélanésienne, justement face à Calédonie.
Du bon monde, ouais.
Tahiti qui a fini troisième au dernier jeu. Donc oui, il y a
un plateau
pas mal
relevé,
de grosses teams, mais je pense que la plus grosse sera Guam.
Guam, avant tout. Ça sera quoi le mot d'ordre du coup? Vous avez déjà peaufiné un petit peu. Qu'est-ce qu'il faudra travailler particulièrement pour essayer de faire la différence?
On part. On est une équipe qui va beaucoup bosser en défense. On s'est donné le moyen d'être bien physiquement pour justement pouvoir défendre fort. Ça va être l'un de nos points forts. Et derrière, normalement, ça ira. Mais déjà, grosse défense. Et puis, après l'attaque, tout le monde sait le faire. Mais la défense, c'est vraiment un travail collectif.
C'est là qu'on gagne son match, voilà. C'est là qu'on gagne son tournoi.
Comme il dit le coach. Attaquer en défense.
Un mot, si vous le voulez bien, également, sur le 3 contre 3. Qu'est-ce qu'on peut en dire un petit peu on commence à se forger sur cette discipline. Natsumi, ça fait son apparition. Le 3 contre 3, ça change la donne, forcément?
Alors, ça change la donne parce que c'est en fait une des disciplines qui s'est rajoutée au Jeu du Pacifique depuis 2017. La Nouvelle-Calédonie n'avait pas pu présenter d'équipe parce qu'elle n'avait pas mis en place de championnat, chose qui a été faite et qui a été rectifiée depuis. Et du coup, par ce biais, on a réussi à intégrer maintenant une équipe de 3 contre 3 pour les Jeux qui vont se dérouler justement à Apia. Donc on a aussi un effectif qui a été plus ou moins créé du 5-5. C'est des joueurs de 5 qui se sont un petit peu orientés vers le 3 contre 3.
Oui.
Et qui ont créé des groupes qui sont assez solides. Ils ont eu l'occasion aussi, eux, de se déplacer pour se préparer. Donc les féminines, qui sont coachées par Jean-Marc, ont eu l'occasion d'aller sur le Vanuatu pour un tournoi. Donc le Vanuatu, qui au niveau du 3-3 dans le Pacifique, avait gagné quand même une des médailles quand même au dernier mini-jeu. Donc au niveau des filles, elles ont quand même réussi à gagner ce tournoi au Vanuatu. Donc ça veut dire que physiquement, elles sont prêtes. Après, de là à voir qui sera présent pour les Jeux, ça c'est un petit peu la grosse attente que tout le monde a. Et au niveau des garçons, ils ont pu aussi avoir un stage à l'extérieur en Nouvelle-Zélande pour justement essayer de créer cette cohésion et au niveau du 3 contre 3. Et je leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est très nouveau chez nous.
Ouais.
Ça se met en place et je pense que ça ne va que progresser dans le futur. Donc voilà.
Si l'essai est concluant maintenant, c'est la promesse de voir justement cette discipline se développer sur la Calédonie, voire plus souvent de tournois 3 contre 3. On en voit déjà beaucoup, hein, évidemment. C'était tout dans l'optique des Jeux du Pacifique. Désormais, si la sauce prend...
C'était pas vraiment dans l'optique des Jeux, mais c'était plus pour apporter en fait une nouveauté au basket traditionnel qui commençait, je pense, à prendre un peu la poussière. Donc on a essayé forcément de voir ce qui se faisait à côté, et le 3 contre 3 dans la région avait déjà éclaté depuis quelques années. Donc nous, on est un petit peu en retard là-dessus, mais forcément, on rattrape avec beaucoup plus de facilité, parce que dans les pays du Pacifique, on a quand même un territoire qui est plus ou moins bien installé au niveau des infrastructures, au niveau de l'équipe mise en place. On a quand même un CTS, donc Angelo, qui fait le nécessaire pour le 3 contre 3 masculin. Donc, voilà, il faut juste que voilà, on continue à construire les choses, et je pense que d'ici 3-4 ans, on sera beaucoup plus près dans le basket 3-3.
Pourquoi pas avec une médaille d'or dès maintenant, ça serait la meilleure manière.
Dès maintenant, mais tout est faisable lorsqu'on y croit. Donc, je pense qu'il faut juste y croire et puis se donner les moyens de le faire.
Impeccable. Et bien, cet objectif Jeux du Pacifique, évidemment. Si vous le voulez bien, pour terminer cette émission, Samantha, on va juste, vous me faites des gros yeux, revenir un petit peu, puisqu'on l'évoquait en début d'émission. Vous revenez donc là tout juste de Métropole à cette occasion, hein, pour pouvoir prendre part à la compétition avec l'équipe de Calédonie. Dites-nous un petit peu où vous en êtes dans votre parcours, puisqu'il y a des bonnes nouvelles, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Alors, je suis partie en 2017 pour intégrer un centre de formation, le centre de formation du COB Calais. Donc ça fait 2 ans que j'évolue en National 3 et en entraînement avec les pros. Et comme les centres de formation se terminent à 20 ans, donc voilà, j'ai signé récemment en National 2 à Gravelines avant de rentrer.
D'accord, ça c'est une excellente nouvelle.
Oui, bien sûr, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle expérience, donc ouais.
Alors, dans quel état d'esprit vous êtes là maintenant sur cette saison qui va prendre, enfin, comment ça va se passer?
Pareil, comme pour les Jeux, j'ai hâte d'y...
Vous avez hâte pour tout?
Ah oui, j'ai hâte.
Bon, il y a une préparation particulière, on l'imagine,
National 2. Normalement, on a une préparation physique, comme pour le centre de formation, une préparation physique tout l'été. Mais comme grâce aux Jeux, je ne m'arrête pas, et qu'après les Jeux, je rentre en métropole. La préparation se fait automatiquement.
Ça se sera fait. Voilà, une compétition de plus, c'est toujours ça.
Ça sera fait déjà la préparation avec les Jeux et avec l'équipe de Nouvelle-Calédonie.
Forcément, les coachs là-bas du côté de la métropole, sur Gravelines, vous leur annoncez que vous devez partir prendre part à une compétition dans le Pacifique. Ils voient ça comme un petit plus.
Ah oui, bien sûr, ils sont tous contents. Et même le COB Calais, mon ancien club, super fier d'envoyer une de leurs basketteuses
faire
une sélection, représenter son pays.
Vous avez forcément de temps en temps des nouvelles de notre petit contingent de basketteurs du Caillou qui sont là-bas du côté de la métropole. Vous parlez de National 2, on pense notamment à Swann Alucé, hein, qui est toujours dans le haut niveau.
Bien sûr, elle a joué la saison dernière en Ligue à La Rochelle.
Exactement.
Et elle a très bien joué.
On l'a suivi de près.
Et la saison précédente, elle était en Ligue 2 à Angers. Donc elle est venue jouer à Calais, donc voilà, on s'est vu entre calédoniennes.
Elle vous coach, elle vous donne des conseils,
parce
qu'elle a une sacrée expérience déjà.
Ah oui, bien sûr, et c'est un modèle pour les jeunes calédoniennes et calédoniens ici, de joueuses qui évoluent en métropole et qui a réussi.
vous mettre sur les bonnes voies, on va dire.
Des très bons conseils.
Eh bien, très bien. Merci encore. En tout cas, on souhaite qu'il y aura des belles médailles et de beaux résultats. Samantha, Yann et Natsumi, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Dans 15 minutes, ce sera le journal de la rédaction d'RRB. Merci de votre fidélité en vous souhaitant une très belle soirée à l'écoute de nos programmes.